AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé et la santé, comme on le dit souvent dans cette émission, et dans l'assiette, et nous allons parler des combinaisons alimentaires avec mon invité, le docteur Kaina Oussedik. Bonjour et bienvenue Kaina.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous revoir. Vous êtes docteur en biochimie moléculaire, nutritionniste et spécialisée dans les équilibres nutritionnels. Et vous bâtissez depuis quelques années des ponts dans une nouvelle, finalement, discipline, la biochimie alimentaire.
C'est ça, tout à fait. On voit souvent les nutritionnistes, les diététiciens. Nous sommes des biochimistes. On travaille sur les activités de sécrétion enzymatique sur la digestion. Et donc, on pense qu'on peut ramener une part de solution pour toutes ces problématiques.
L'idée, c'est de savoir ce qui se passe dans le corps quand on mange quelque chose, en fait.
Exactement. L'idée, c'est de savoir ce qui se passe lorsqu'on combine plusieurs aliments dans son assiette. C'est vrai qu'actuellement, les gens sont de plus en plus sensibles au choix des aliments, aux saisons, à la qualité des aliments. Maintenant, il faut être sensible aux combinaisons que l'on fait avec ces aliments-là.
Voilà, et vous publiez Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires chez Flammarion. C'est vrai que quand on regarde les animaux, ils sont assez mono-aliments.
Tout à fait.
Nous, alors là, quand on mange, on combine un tas d'aliments.
Tout à fait, exactement. Et puis, nous, lorsque nous mangeons, nous combinons plusieurs aliments, mais allez savoir pourquoi. Lorsqu'on parle, on va parler par aliment, par mono-alimentation. Donc, on a cette théorie de dire, est-ce qu'un aliment est bon? Est-ce qu'un aliment est gras? Est-ce qu'un aliment est salé? Est-ce qu'un aliment est trop sucré? Mais on ne va pas jusqu'au bout de notre raisonnement. On parle d'aliments, de mono, on parle tout le temps d'un aliment. Alors on me dit souvent le fromage c'est bon, c'est mauvais, le beurre c'est bon, c'est mauvais. Et en réalité on oublie que ce qu'on devrait vraiment regarder, c'est lorsqu'on les associe tous ces aliments, est-ce que leur combinaison est bonne pour le corps ou est-ce qu'elle n'est pas bonne?
C'est-à-dire que si on était mono-aliment...
Il n'y aurait pas de problème.
Voilà, c'est ça que ça veut
tout
dire.
À fait.
Et qu'on mangeait cru.
Exactement.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Alors, manger cru, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne supportent pas le cru, car n'oublions pas qu'on a ce qu'on appelle des petites bactéries qui peuplent nos intestins, notre microbiote, et qui a évolué avec les décennies. Et donc, le microbiote d'aujourd'hui va plutôt préférer le cuit, alors pas trop cuit, mais légèrement cuit, c'est-à-dire dégorger des sels minéraux, des vitamines, de l'eau. Il faudrait quand même cuire un petit peu ces aliments pour les rendre plus digestes.
Mais nos ancêtres, ils cuisaient pas.
Nos ancêtres ne cuisaient pas, mais il faut pas oublier que celui qui a fini par évoluer, devenir intelligent, a quand même commencé à cuire ces aliments.
Alors, la digestion, puisque c'est de ça qu'on va parler ce matin, c'est un processus mécanique ou un processus chimique?
Alors, la digestion, c'est un processus mécanique et chimique.
Donc, les deux.
Exactement. Lorsque vous allez mettre un aliment dans la bouche, on dit attention, il faut mastiquer. Donc, la mécanique des dents joue énormément dans cette première partie de digestion. Mais n'oublions pas toute la partie chimique qui est sécrétion enzymatique, la salive, les sécrétions du suc gastrique, du suc intestinal. Et évidemment que la digestion, c'est les deux paramètres. Et on doit respecter ces deux paramètres pour avoir une bonne digestion.
C'est-à-dire qu'à chaque étape de ce qu'on mange, et pas qu'on avale, il va y avoir une réaction, on va dire, chimique
de notre corps sur ces aliments-là. Et lorsque vous associez correctement ces aliments, la réaction chimique qui va avoir sur cette combinaison sera bénéfique pour la suite de la digestion. Par contre, lorsque nous associons mal, cette mauvaise association va avoir un effet, chimiquement pas extraordinaire pour la digestion. Donc on risque de faire ce qu'on appelle les masses indigestes, des aliments qu'on ne va pas vraiment correctement digérer, et donc on ne va pas en tirer tous leurs bienfaits.
Oui, ce sont des substances chimiques, donc ils sont des sécrétions digestives.
Exactement. En réalité, lorsque nous mangeons, nous allons faire varier ce qu'on appelle le pH. Alors, on va faire un petit cours de chimie, mais au cours de notre digestion, on peut passer d'une phase très 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 acide à moyennement acide. Et ces variations-là se font correctement lorsque vous combinez vos aliments correctement.
C'est-à-dire que quand on part de la bouche, Donc la salive contient elle-même une substance.
Exactement, contient plusieurs substances. Ces substances vont venir se fixer sur votre alimentation. C'est comme si qu'on commençait à mettre des codes-barres sur les aliments que nous sommes en train de...
Ça s'appelle comment ces substances ?
Alors en fait, il y a l'amylase, il y a plusieurs molécules en réalité dans votre salive. Mais pour vraiment venir simplifier ça, c'est comme si qu'on se mettait à codifier, à mettre des codes-barres sur tout ce que nous sommes en train de mastiquer. On met plusieurs codes-barres sur tout ce que nous mastiquons. Ce code-barre, il est soit positif, soit négatif, si les combinaisons ne sont pas bonnes. Ensuite, ce mélange d'aliments déjà code-barrés par votre salive va tomber progressivement dans l'estomac, et l'estomac là...
D'abord, il y a l'œsophage.
Exactement, l'œsophage qui va ramener tout ça, c'est un grand tunnel qui va emmener tout ça vers l'estomac, et hop, quand ça arrive dans l'estomac, c'est très simple pour lui, suivant les codes-barres, il sait ce qu'il doit faire. Et lorsqu'il y a des aliments...
Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'estomac, d'ailleurs ? Ça,
alors, dans l'estomac, il y a une sécrétion du suc gastrique. Suivant le type de mélange que vous faites, soit l'estomac se met à sa condition la plus acide, ou soit il se met à sa condition la plus douce. Donc, il est entre pH 2, 5, 8. Et suivant ce que nous mangeons, il va être soit vraiment dans sa condition la plus acide. Par exemple, lorsque nous mangeons des fruits, les fruits sont riches en vitamines. Alors, nous, on aime bien dire « mange du fruit », c'est riche en vitamine C, c'est riche en B6, en B9. En réalité, une vitamine, ce n'est qu'une molécule acide. Si on se mettait à appeler les vitamines par leur nom chimique, nous dirions acide ascorbique pour la vitamine C, acide folique pour la B9. Et donc, en réalité, lorsque nous mangeons des fruits, ces fruits sont très, très riches en acides. Et lorsque ces acides vont tomber dans l'estomac, l'estomac va comprendre qu'il a affaire à de l'acide ascorbique. Et donc, il va se mettre dans sa condition la plus acide que la vitamine, pour pouvoir transformer tout ça en nutriments.
Alors, c'est vrai que la nourriture aujourd'hui est de plus en plus molle. Elle est de plus en plus facile à manger.
Tout à fait.
Et s'il faut mastiquer, pourquoi est-ce que c'est important justement d'avoir cette action de mâcher ?
Alors, cette action de mâcher, elle a plusieurs importances. L'une, la première, c'est ce qu'on disait sur les fameux codes-barres, c'est enrober totalement les aliments par la salive pour qu'ils soient bien pris en charge par l'estomac. Mais il y a aussi une autre action, c'est donner le temps aux sécrétions de se faire et donner le temps à votre cerveau de comprendre que vous êtes en train de manger. Souvent, il y a les gens qui vont vous dire « Oh, j'ai fini de manger, il m'a fallu 10-15 minutes pour comprendre que j'avais fini. » Donc, parce qu'ils mangent vite, ils ne mastiquent pas, ils avalent. Donc, la mastication est bénéfique et sur le plan chimique pour que la digestion se fasse correctement, mais aussi pour qu'au final, vous ayez une satiété. Donc, laissez le temps aux sécrétions de démarrer et laissez le temps à votre cerveau de comprendre qu'il a également démarrer son repas.
Alors, on va prendre l'exemple de ceux qui avalent des... C'est compote aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
C'est des petits tubes qu'on...
Exactement.
Qu'on
alors, on me dit, oui, j'ai fait une compote de pommes. Quand vous regardez une compote de pommes, enfin, ben là, c'est ça, c'est vraiment les petites pochettes qu'on suce. En réalité, quand vous regardez, c'est fait avec 3-4 pommes en moyenne. Alors, la question, c'est est-ce que vous aurez mangé 3-4 pommes? Donc, on aurait mastiqué, on aurait mangé une ou deux pommes. Et là, comme on ne mastique pas et tout est sous forme de purée, on est capable d'avaler 3 pommes ou 4 sans s'en apercevoir.
Alors, c'est pareil pour la soupe, hein, d'une certaine
exactement,
façon. Qu'est-ce que ça change pour l'action de digérer chimiquement ?
Exactement. Alors, si on ne mastique pas et si on ne passe pas le temps nécessaire à ces aliments dans la bouche, ils ne sont pas enrobés, ils ne sont pas code-barrés. Et donc, arrivé dans l'estomac, l'estomac ne va rien faire. C'est un liquide, il ne fait que passer par l'estomac. Il va continuer sa traversée vers les intestins.
Ah, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas ?
Ah ben non, qu'est-ce qui va l'arrêter ?
Ah oui.
Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a pas, de morceaux, si je peux dire ça. Donc tout liquide passant par votre bouche, vous l'avalez, il continue sa trajectoire. Qu'est-ce qu'il pourrait bien l'arrêter au niveau de l'estomac ? Si c'est très liquide, bah, ça continue sa trajectoire et ça tombe dans les intestins.
Ce qui veut dire qu'il est digéré, enfin...
Voilà, il va être digéré par les intestins, alors que les intestins, eux, sont vraiment la troisième étape. Donc, ils n'auront ni été enrobés par la salive, ni pris en charge par l'estomac, et ils se trouvent, boum, d'un coup, dans les intestins. Et donc, les intestins seront obligés de faire au mieux pour transformer ces aliments. Mais malheureusement, votre intestin n'est pas là pour remplacer votre salive, n'est pas là pour remplacer votre mastication, vos dents, et il n'est pas là pour remplacer votre estomac. C'est pour ça qu'on préconise vraiment de manger solide et de mastiquer.
Alors, vous racontez le cheminement d'une pomme hein, quand on la mange dans l'organisme. Entre le moment où on met la pomme dans la bouche et le moment où elle ressort de l'autre côté, il se passe combien de temps, en gros ?
Ah bah, suivant... Après, si on prend quelqu'un qui n'est pas malade, qui n'a pas de problème de digestion, qui n'a pas de problème au niveau intestinal, quand vous mastiquez votre pomme, elle peut passer 2 à 3 heures dans votre estomac. Ensuite, elle va faire sa traversée dans les intestins. Les intestins, c'est très long. Donc, elle peut passer dans les intestins encore 4 à 7 heures.
C'est le moment où c'est le plus long, en fait.
C'est ça, exactement.
Voilà,
c'est le
passage par les intestins.
Donc, vous imaginez, il y a une moyenne de 8 à 10 heures de passage. Et ensuite vient la partie qui va être absorbée, donc va passer vers le sang, et l'autre partie que le corps n'aura pas besoin, il va commencer à la pousser tranquillement vers le côlon pour former les déchets. Donc, vous pouvez faire toute votre journée à digérer votre pomme. Encore plus pour encore plus si on mangeait un pain, un sucre lent, un polysaccharide. Lui va passer encore beaucoup plus de temps.
On ira tout à l'heure dans la famille des aliments, mais ce qui veut dire que si le soir on mange une soupe et un yaourt, on n'a rien mâché du tout, en fait.
Exactement, on n'a rien mâché, on n'a pas donné un signal à son cerveau en disant « j'ai mangé ». Et en plus, on va aller se coucher, laissant les intestins se dépatouiller avec tous ces aliments-là.
Et pourtant, c'est une erreur qu'on commet facilement le soir, par facilité, en fait.
Par facilité, mais c'est surtout, souvent, les gens pensent bien faire. On leur a appris, c'est dans leur... ce qu'on appelle les fausses croyances. On pense bien faire avec la soupe, le petit bol de soupe, le petit yaourt, parce qu'on pense qu'en dormant, on ne doit pas remplir l'estomac. Mais tout ça, ce sont des fausses croyances, parce que votre corps, la nuit, quand vous dormez, il se transforme en usine. Il doit reproduire et il doit refabriquer tout ce que vous aviez utilisé la journée. Si donc vous ne lui donnez pas d'énergie pour le faire, c'est compliqué.
Le docteur Kaina Ousseidi qui est avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous publiez Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires chez Flammarion, et on va s'intéresser justement à ces fameuses combinaisons alimentaires.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, avec le docteur Kaina Ousseidi qui est avec nous, docteur en biochimie moléculaire, nutritionniste et spécialiste des équilibres nutritionnels, et qui publie Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires aux éditions Flammarion. Au départ, quand vous avez commencé à vous intéresser en tant que chimiste à ces combinaisons alimentaires, c'était pour vérifier l'efficacité de traitements médicaux.
Voilà, au départ...
Il faut expliquer aux gens pourquoi.
Exactement. Au départ, j'entends parler souvent de ce qu'on appelle les combinaisons alimentaires de Shelton. Parce qu'il faut quand même souligner que c'est Shelton le premier à avoir mis en place ces fameuses combinaisons alimentaires en 1920.
Et Shelton, Herbert Malgolfin Shelton,
exactement,
naturopathe américain,
tout
dont on dit qu'il aurait vécu jusqu'à 100 ans.
Oui, c'est ça. Voilà. Plus de 100 ans, oui, tout à fait.
Enfin, lui, il fallait manger cru. Enfin,
voilà, et il avait quand même poussé un peu la science vers ses limites. Il avait même fait des tests sur des patients, donc c'était un petit peu... Voilà,
oui, mais c'était un chercheur aussi.
C'était un chercheur.
Ça fait partie de ces chercheurs fous à l'époque.
Exactement ça. Voilà. C'était un chercheur fou.
Ouais.
Et c'est lui qui a vraiment mis le doigt en premier sur ces fameuses combinaisons alimentaires. Mais plus tard, on a eu des Américains, des Canadiens, des Suisses qui se sont intéressés aux combinaisons alimentaires. Et c'est vrai que plusieurs scientifiques s'y sont intéressés, dans le but d'essayer d'économiser un maximum d'énergie chez les patients qui étaient en traitement assez lourd. Et c'est là où je me suis dit, tiens, en France, on ne le fait pas. Peut-être il serait intéressant de voir un petit peu comment on pourrait accompagner ces patients.
Voilà, donc vous avez repris les travaux de Shelton et vous y avez ajouté vos connaissances en chimie et en biochimie et vous avez fait évoluer justement ces recherches.
Et voilà, exactement. Et donc, on avait fait ça dans une clinique, c'est la clinique Paul Piquet à Sens, et on avait travaillé avec eux, on avait fait un partenariat avec eux et avec l'ARS de la Bourgogne-Franche-Comté, que je salue, et c'est vrai qu'on avait commencé à faire ces fameuses combinaisons alimentaires sur des patients qui allaient rentrer en traitement ou qui étaient en cours de traitement. Et l'objectif, c'était bien combiner ces aliments pour épuiser un minimum d'énergie pour ne pas trop dépenser d'énergie sur ses digestions et avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir tenir les traitements qui sont quand même assez costauds en chimio.
Voilà, et vous vous êtes intéressé notamment à la façon dont notre système digestif s'adaptait à ces molécules.
Exactement.
C'est ça qu'il faut comprendre.
Exactement, c'est ça. Et donc, étant donné qu'on a plusieurs molécules que nous utilisons en France pour différentes chimiothérapies, on s'est intéressé à l'effet de chacune de ces molécules sur le tube digestif versus si on faisait les combinaisons alimentaires, comment on pouvait venir soulager les patients. Et c'est ce que nous avons fait pendant 5 ans à la clinique Paul Piquet de Sens.
Voilà, et vous vous êtes intéressé à des questions, comment trouver le bon dosage et le bon moment pour prendre un médicament.
Exactement.
Par rapport au moment où on en est de sa digestion.
Voilà, c'est ça. Souvent, les chimiothérapies, en tout cas la clinique, étaient faites le matin très tôt. Donc, les patients se présentaient très tôt le matin. Et donc, on a une diététicienne qui est sur place, qui va leur expliquer un peu les combinaisons, qui va les sensibiliser pour les combinaisons. Et ensuite, lorsque les patients donnent leur accord, on les suit au cours de toutes leurs séances de chimiothérapie. Et c'est là où on a vu le bienfait sur ces patients-là. Et c'est comme ça que, petit à petit, on en est venu à proposer les combinaisons alimentaires à tous les patients qui avaient des réels problèmes digestifs.
Parce que les chimios ont des actions sur
Sur nos sécrétions.
Sur le microbiote, voilà.
Sur le microbiote, sur nos sécrétions enzymatiques, sur notre tube digestif, sur même la contraction, décontraction de l'estomac et des intestins. Les molécules de chimio, c'est vrai que c'est très bénéfique pour combattre un cancer, mais en même temps, si on arrivait à venir les emboîter dans un programme nutritionnel sur mesure pour le patient, c'est vrai qu'on a vu des résultats très très concluants.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez combiné chimio et programme nutritionnel adapté grâce aux associations alimentaires.
Exactement, c'est ça.
Et à quel moment est-il plus intéressant de justement prendre un médicament?
Alors, en réalité, c'est tout dépend.
Ça dépend de la molécule.
Ça dépend de la molécule, mais surtout, ça dépend de la physiologie du patient. Il y a des patients pour lesquels on va doser certaines molécules via un bilan sanguin, et on va voir que pour eux, c'est beaucoup plus bénéfique de prendre ça très tôt le matin, dans la matinée. C'est vrai que là, pour les chimios, c'était à nous de nous adapter, parce que la chimio a été faite le matin très tôt, enfin la matinée. Donc, c'était à nous de nous adapter à ces rythmes-là et de trouver un rythme alimentaire adéquat.
Vaut mieux administrer un médicament quand la digestion est rapide ou quand elle est lente?
Il vaut mieux administrer un médicament quand la digestion est lente. Comme ça, votre système digestif ne va pas venir abîmer de trop cette molécule.
Ça, c'est important à comprendre.
Tout à fait. Et puis, quand il s'agit de chimio, c'est vrai qu'il y a plusieurs études un peu contradictoires, tout le monde n'est pas d'accord. Mais à mon sens, lorsqu'on vient le matin faire une chimiothérapie, il y a quelque chose qu'on demandait aux patients de ne pas faire, c'est de ne pas ingérer du sucre. Donc, pas de sucre blanc, pas de pain blanc. On leur proposait d'ingérer des pains noirs, des pains complets. On leur proposait de sucrer avec du miel. Mais on leur demandait de ne pas ingérer de sucre blanc.
Alors, pourquoi?
Parce qu'en réalité, le sucre va venir réduire un peu l'efficacité de vos traitements. Ce qu'on faisait, nous, c'est une forme de jeûne. On demandait aux patients de pas manger de sucre les deux jours avant et le jour de la chimio. Comme ça, c'était une façon d'affamer un petit peu ces cellules, toutes les cellules de son corps.
Parce que les cellules cancéreuses aiment le sucre.
Voilà, et parce que même nos cellules aiment le sucre. Donc si vous arrêtez de manger du sucre, mais vous mangez de tout, et diversifié, mais deux jours avant votre chimio, vous ne mangez, vous ne touchez plus au sucre, évidemment que le jour de la chimio, quand vous administrez ça, l'absorption est beaucoup plus intéressante pour le patient.
Donc, quand on parle d'association alimentaire, ça veut dire quoi en fait ?
Alors, concrètement, on va prendre un exemple. Si le matin, vous me dites, Kaïna, j'adore ma tartine au beurre ou j'adore ma tartine de pain au fromage, je vais vous dire, c'est parfait, c'est très bien, on peut continuer. Mais si vous me dites qu'à ça, vous rajoutez un jus de fruits, alors là, je vais vous dire que c'est pas bon parce que le jus, il est préférable dans un premier temps de consommer un fruit sous forme solide et pas sous forme de jus. Et si vous consommez un fruit, c'est ce qu'on appelle un acide. Il fait partie de la famille des acides, parce que riche en acide ascorbique. Alors que si vous consommez une tartine, le pain, c'est un féculent, ça fait partie des amidons.
Alors, on ne l'a pas encore dit, mais dans votre livre, vous partagez une classification de l'alimentation. Vous avez commencé à parler des acides. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a les protéines.
Il y a les protéines animales.
Alors, de première et de deuxième catégorie, dites-vous.
C'est ça. Parce que la protéine animale qu'on appelle la bête, elle est un peu comme vous, comme moi. Elle a un derme, un épiderme, des tissus, du sang, des hormones, des enzymes. Par contre, ce qui découle de la bête n'a pas la même anatomie, n'a pas la même structure chimique. Donc, on ne peut pas dire que leur digestion est identique. Donc, vous avez d'un côté la famille de la protéine animale. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les aliments neutres. Et à l'intérieur de cette famille des neutres, nous retrouvons les protéines de second degré. Mais on retrouve aussi des légumes verts, des produits laitiers, les œufs, etc.
Et alors pourquoi neutre ? Expliquez-nous.
Le neutre, ça veut dire qu'il n'impose aucune condition digestive au cours de la digestion. C'est-à-dire que s'il est avec des acides, il se fera digérer dans les mêmes conditions que les aliments acides. S'il est avec une protéine animale, il se fera digérer dans les mêmes conditions que la protéine animale. Et s'il est avec les amidons, il se fera digérer dans les mêmes conditions que les amidons.
Donc, ce qui veut dire que les aliments que vous classez dans la catégorie des aliments neutres peuvent être associés à tous les autres aliments.
À toutes les autres catégories.
C'est ça que ça veut dire.
Voilà, exactement.
Alors, qu'est-ce qu'on a dans les aliments neutres, par exemple ?
Alors, on a les légumes verts, on a, pour les citer, on peut avoir le haricot vert, le poireau, les asperges, les courgettes, les avocats, les tomates. Et oui, ce ne sont pas des acides quand ça, on parle de la chimie.
C'est fou,
voilà.
Parce qu'on a l'impression que c'est acide, la tomate.
On a l'impression que c'est acide, mais par contre, la réaction chimique qu'elle va initier dans l'estomac n'est pas du tout acide.
Donc le neutre, ça n'a rien à voir avec le goût
ou
des aigreurs qu'on pourrait avoir.
Tout à
c'est
fait,
ça.
C'est exactement
c'est ça qu'il faut comprendre.
Exactement. Le neutre, ça veut dire juste que ça n'impose pas de conditions particulières. Par contre, nous avons deux grandes familles qui, elles, imposent vraiment leurs conditions. En biochimie, j'appelle ça les deux gangsters. On a les acides et les amidons. Donc chacun...
Alors, dans les acides, qu'est-ce qu'on a, par exemple ?
Dans les acides, on a tous les fruits crus et les fruits séchés, comme l'abricot, le pruneau, le raisin, etc. Et nous avons tout ce qui découle de ces fruits crus, c'est-à-dire le vin blanc, le rosé, le champagne.
Dans les acides.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Le citron, tous les vinaigres, la moutarde, tout ça est acide.
D'accord. Et là aussi, c'est un rapport avec le goût acide ou pas du tout ?
Non, parce que c'est rempli d'acide ascorbique et de tout ce qu'on utilise, enfin de toutes les vitamines.
D'accord.
Voilà. Ou donc de certains conservateurs qui sont aussi des acides.
Donc ça, c'est la famille des acides. Ensuite, vous avez parlé des amidons.
Voilà.
Donc qu'est-ce que vous mettez, Kaïna, dans les amidons ?
Alors, dans les amidons, nous avons ce qu'on appelle les céréales, donc les polysaccharides, les sucres longs. Vous avez le blé, l'avoine, le seigle, toutes les céréales. Et vous avez aussi les légumes sec, les lentilles, les pois chiches. Attention, les petits pois font partie des amidons. Et aussi les fèves, la betterave.
C'est parce qu'ils sont sucrés, c'est ça ?
Non, parce qu'ils ont des polysaccharides. Ça veut dire que leur structure, c'est plusieurs sucres attachés les uns à côté des autres. Ça fait comme des colliers de perles. Et donc, plus on a des chaînes de sucre, et plus ils sont polysaccharides, donc complexes à la digestion.
Donc, si on veut manger en respectant le principe de l'association alimentaire, il faut déjà qu'on connaisse les grandes familles des aliments pour les associer.
Exactement. Et souvent, ce qui revient souvent dans ces dernières décennies, ce qu'on appelle le fameux côlon irritable, où les gens vous disent « je crois que j'ai un côlon irritable » ou « je crois que j'ai les intestins poreux, j'ai mal tout le temps quand je mange », s'ils faisaient juste attention à définir quels étaient leurs acides habituels et quels étaient leurs amidons habituels, ils verront que lorsqu'ils arrêteraient de mettre ces deux familles dans le même repas, ces douleurs-là, ces ballonnements et ces fermentations vont disparaître.
Bon, il y a des tableaux dans votre livre pour savoir qui appartient à quelle famille et quelles sont les associations qu'on peut faire. Ça s'apprend, mais c'est simple. Attention, ça a l'air un peu comme ça difficile.
Mais c'est très ludique. Voilà. Et puis l'objectif, ce n'est pas d'exclure des aliments. Arrêtons d'avoir cette philosophie, cette théorie qui dit pour se sentir bien, faut exclure des aliments.
Bon, alors justement, je rappelle...
La diversité est importante.
Je rappelle... Ah oui, à qui le dites-vous, Kéna? Vous publiez le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires chez Flammarion.
AVS revient dans un instant. AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle des combinaisons alimentaires ce matin avec le docteur Kéna Oussedi. Je rappelle que vous expliquez le principe de la méthode dans le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires aux éditions Flammarion. On a vu les 5 familles d'aliments qu'il faut connaître.
Les 4, pardon.
Et après, qu'est-ce qui ne va pas avec quoi?
Alors,
qu'est-ce qu'on ne peut pas associer?
Ce qu'on ne peut pas associer, ce que je disais là, ce qui est important, c'est d'essayer vraiment de définir quels sont tous les aliments amidonnés que vous mangez. Par exemple, le pain, le riz, les pâtes, les fèves, les lentilles, les petits pois, les carottes, les betteraves, tout ça, ce sont des amidons. Donc attention, lorsque vous voulez récupérer tous les bienfaits qui sont dedans, que ce soit les vitamines, les minéraux, etc., attention à ne pas mettre par-dessus ou avec des acides, c'est-à-dire le vinaigre, le citron, les fruits crus, etc. C'est ces deux familles vraiment qui actuellement posent réellement des problèmes de digestion chez la plupart des gens que l'on voit.
Alors, on va prendre un exemple.
Je mange des pâtes.
Non, je veux un exemple avec l'avocat parce que ça m'a troublé.
Oui,
je
me suis posé l'avocat, tout okay. à fait.
Donc, toast à l'avocat.
Toast à l'avocat. L'avocat est un neutre.
Alors, l'avocat est un neutre, le toast
le pain,
c'est
un amidon.
Un amidon. Et vous dites qu'on ne peut pas mettre de jus de citron.
Voilà, parce que le citron avec le pain ne vont pas ensemble.
Alors que si on fait une salade d'avocat avec ce que vous voulez...
On pouvait rester sur le toast, hein. On pouvait rester sur l'avocat et votre pain, votre tartine, mettre un filet d'huile d'olive, un petit peu de sel et c'était bon.
D'accord, parce que si on mange l'avocat en salade et qu'il n'y a pas de pain, on peut mettre du citron.
C'est ça.
C'est ça que ça veut dire.
Exactement. Pour le toast, c'est soit le citron, soit le pain, mais pas les deux, parce que sinon, vous perdez les bienfaits de l'avocat.
Bon, couscous.
Le couscous, c'est un amidon. Si je le mange...
La graine, c'est de l'amidon.
Voilà, d'accord. La graine, c'est de l'amidon. Si je mets ça avec des pois chiches, avec des courgettes, des carottes, des navets, tous les légumes que je veux, c'est parfait. Par contre, si je rajoute du raisin cru, comme certains aiment le faire, ou de la pastèque, là, pour le coup, le raisin, la pastèque, ce sont des acides, et ça ne va pas avec la graine.
Ce qui veut dire qu'au cours du même repas, si vous mangez un couscous et qu'en dessert, pour terminer, vous prenez de la pastèque...
On n'est pas bon du tout.
Au niveau des associations alimentaires, on n'est pas bon. Enfin, voilà, après...
Voilà. Au niveau des associations alimentaires,
c'est,
tout à fait.
Voilà, c'est ça qu'il faut.
On va ballonner, on va fermenter, on peut, malheureusement, on va aussi stocker un peu de ce repas. Alors que si nous avions fini par des fruits cuits, ou avions fini par un yaourt, par exemple, on n'aurait pas été dans le même problème.
Ça fonctionnait avec le fruit cuit et les yaourts, alors qu'un fruit pas cuit, ça ne marchait pas.
Tout à fait, parce que le fruit cuit, lorsque vous l'avez cuit, vous avez détérioré la vitamine. L'acide ascorbique, votre vitamine C, elle ne vit pas au-delà de 100 degrés. Donc lorsque vous cuisez vos fruits, vous êtes en train de détruire toutes les vitamines. Évidemment que du fruit cuit, vous récupérez les fibres, les minéraux, mais il n'y a plus les acides. Il n'y a plus ces fameuses vitamines qui vous gênent à la digestion.
Il y a eu une mode pendant quelques années qui consistait à dire qu'il ne fallait pas manger les fruits pendant les repas, qu'il fallait les manger...
En dehors.
–
Tout à fait, parce que…
C'était par rapport
aux combinaisons, tout à fait. –
C'était pour ça, d'accord. –
Exactement. Tout le monde vous dira, si je mange un fruit au cours de mon repas, je fermente. Mais parce que les gens ont tendance à manger de l'amidon à tous les repas. Ils ont tendance à manger l'amidon sous forme de pain, de riz, de pâtes, de pommes de terre. À chaque repas, ils ont de l'amidon. Donc ils ont bien compris qu'à chaque fois qu'ils mettaient le fruit en plus, ils fermentaient, ils n'étaient pas bien. Mais parce qu'ils faisaient acide amidon. Donc c'est pour ça qu'à une époque, au lieu d'expliquer les combinaisons, c'est vrai que plusieurs médecins préféraient juste dire mettez les fruits en dehors des repas.
Exemple, un steak avec des pommes de terre.
Voilà, un steak avec des pommes de terre à ne pas faire tous les jours, parce que le steak c'est quand même une protéine animale, donc complexe à la digestion. Les pommes de terre, c'est la même chose, mais de temps en temps pour se faire plaisir, ça c'est une association qui passe.
Steak pâte.
Steak pâte, c'est pareil, c'est une association qui passe, mais qui est quand même assez complexe à la digestion. Mais si vous mettez la petite cuillère de moutarde juste en plus, là pour le coup, la moutarde, la mayonnaise
acide.
Ou le ketchup, voilà, ce sont des acides.
Et donc
là, on va stocker le steak pomme de terre ou steak pâte.
Donc en fait, l'erreur, c'est pas les pâtes ou les pommes de terre, c'est la moutarde.
Voilà, exactement. Ce sont des acides qu'on rajoute souvent avec nos repas pour accompagner, et c'est ce qui fait qu'au final, la digestion se passe très mal.
Les associations alimentaires, il faut les respecter tout le temps, sinon ça sert à rien.
Voilà, c'est ça. Alors attention par contre, parce que souvent c'est la question qui revient, les combinaisons alimentaires, c'est à respecter à partir du moment où on s'aperçoit que même si on garde une bonne hygiène alimentaire, on fait du sport, on fait attention, on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle l'épaississement de la ceinture abdominale. Alors souvent les gens vous diront, c'est bizarre, depuis quelques mois, depuis quelques années, je me vois épaissir au niveau de la ceinture abdominale et pourtant je fais attention à mon alimentation. C'est là où on devrait avoir ce warning et se dire, ah, les combinaisons alimentaires. Mais avant ça, si vous arrivez à tout manger et tout bien digérer et vous arrivez à maintenir votre silhouette et ne pas épaissir au niveau de la ceinture abdominale, alors c'est pas le moment encore.
Bon, c'est bientôt le mois du Ramadan. Bon, alors là, c'est un peu aussi culinairement un mois où ça voyage.
Tout à fait.
Où on réintroduit toutes les recettes, les soupes, où il y a beaucoup d'ingrédients d'ailleurs. Est-ce que finalement, quand on fait une soupe, il y a des ingrédients qui ne vont pas ensemble.
Alors, on se met d'accord, le mois de Ramadan, 80% des gens vont consommer de l'amidon tous les soirs. Que ça soit la soupe de blé, que ça soit différentes soupes, carottes, navets, que ça soit les tagines, que ça soit la semoule, que ça soit les petits gâteaux après le repas. Le mois de Ramadan, à mon sens,
c'est la fête de l'amidon.
C'est la fête de l'amidon, c'est tout à fait ça.
Ouais.
Et donc, il faut avoir quelques notions. La première, c'est comment je dois rompre le jeûne pour que ma digestion se passe bien. Ça, à mon avis, c'est quelque chose, c'est la règle d'or, parce qu'après, il va avoir plusieurs plats au cours d'un même repas, et c'est vrai que c'est assez dense pour votre tube digestif.
D'ailleurs, les gens se plaignent de mal digérer pendant le mois du Ramadan. Alors ça, c'est une plainte qu'on entend pendant tout. Les gens disent, oui, je mange moins, mais je digère mal.
Exactement. Parce que la première règle d'or, c'est de se dire, mon tube digestif n'a pas fonctionné pendant parfois 10 heures, 13 heures, 16 heures dans certains cas. Donc, mon tube digestif n'a pas sécrété de sucre. Il n'a pas fonctionné pendant plusieurs heures. Donc, au moment où je veux redémarrer la machine, il faut que je donne le temps à mon tube digestif de sécréter les sucres, de sécréter les enzymes, redémarrer la machine. Donc, souvent, ce que nous préconisons, c'est de prendre une date, attention c'est un acide, ou de faire une cuillère de yaourt. Certains nous diront j'ai pris un petit morceau de pain, pourquoi pas, un petit verre de thé ou autre, une boisson chaude. Là, je laisse le temps. Il faut que je mange un petit bout de quelque chose et je laisse 15 minutes pour que mon corps se redémarre.
D'ailleurs, j'ai envie de dire, au niveau de la sunna, c'est ce qui se fait.
Exactement.
Il y a la rupture de jeûne, un temps de prière et après la suite du repas.
Et oui, on avait bien fait les choses.
Oui, non mais voyez,
tout à fait.
Il est prévu ce temps. Alors que les gens, parfois, rompent le jeûne et enchaînent.
Tout à fait, ouais. C'est ça. Donc, nous, c'est ce qu'on préconise. C'est le fameux grand verre d'eau tiède. Attention, il faut que ça soit tiède. Il faut que ça soit pratiquement à la température du corps. On ne va pas faire de choc thermique alors qu'on a jeûné
ce
pendant...
Ce que font les Chinois, d'ailleurs.
Exactement. Toujours se rapprocher de la température du corps. Donc, je rompe mon jeûne avec un verre d'eau tiède. Je mange soit un petit bout de pain, soit un petit bout de quelque chose. J'attends 15 minutes pour que toute la machine redémarre. Et ensuite, je me mets à table pour manger. Mais lorsque je vais manger, je dois choisir. C'est faire un choix. C'est soit la soirée de l'amidon, soit la soirée de l'acide. Mais pas les deux en même temps. Donc, le petit citron sur la brique C'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Le petit citron sur la chorba.
Oui.
Non ?
C'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Et oui. Donc il faut supprimer le citron.
C'est soit la chorba, soit le citron.
De toute façon, on a les pois chiches.
Exactement.
Non, mais c'est ça.
Vous avez tout compris.
Non, mais c'est compliqué. Bon.
Voilà. Le bol de chorba avec la brique, ça passe bien. Avec la petite goutte de citron, c'est fini.
Non,
on vous
non.
a perdu pour la soirée.
Pour votre digestion, pour l'association, on enlève le citron.
C'est ça, on enlève les acides. Comme c'est la fête de l'amidon pendant 30 jours, on essaye de ne pas consommer les acides. Si on souhaite consommer les acides, c'est-à-dire si nous souhaitons consommer les fruits, ce que nous proposons, c'est vers 3h, 4h du matin, certains se lèvent pour manger quelque chose. Là, on peut faire un yaourt avec quelques fruits, des noix, des amandes. Et là, on peut faire des fruits, des amandes. Vers 3-4 heures. Alors nous, par contre, pour que le jeûne se passe bien, sans que les gens aient mal à la tête, soient fatigués, etc., on conseille quand même de réduire le sucre au maximum. Moins nous mangeons de sucre, et plus le jeûne se passe convenablement.
Oui, parce que sinon on se tape des pics
de glycémie.
Mais ce qui voudrait dire que, idéalement, le repas du matin, quoi, le sahour, c'est qu'est-ce qui est idéal pour,
alors, l'idéal,
on va dire, pour vraiment vivre une journée de jeûne tranquille, on va
tout
dire.
Tout à fait. Ouais. C'est un yaourt, des noix, des amandes, des pistaches et pas de sucre.
Et c'est tout ?
Voilà.
Ça suffit pour.
Ça tient 10 heures. Parce que les oléagineux, ce qu'on appelle les pistaches, les amandes, les noix, c'est 9 heures de digestion. Donc vous mangez ça dans un yaourt, vous êtes tranquille pour toute la journée.
Tarek, les pistaches, c'est pas Benenuts.
Oui, c'est les vrais pistaches naturels. D'ailleurs, je préfère les pistaches naturels.
Non, c'est ce que je vous dis, parce que si vous pensez que c'est la pistache.
Ah non, sans sel, sans sucre.
Vous voyez ce que je veux dire ? Non, on n'est pas en train de parler de ça. Hein,
tout
non.
à fait, exactement. Après, il y a aussi des amoureux de fruits à qui on ne peut pas enlever totalement les fruits. Donc, on leur conseille d'utiliser soit des fruits rouges, soit un kiwi, mais ne pas aller sur les fruits trop sucrés.
Donc, en fait, il faut éloigner la consommation des fruits des repas.
Tout à fait.
D'accord ? Donc, 3-4 heures, c'est suffisant
non,
pour la digestion
tout, pas
c'est
du
pas
tout.
Assez. C'est
parce
pas
que
assez.
Le ramadan, c'est la soirée amidon. Et la soirée amidon, c'est des sucres lents. À partir du moment où vous les avez mangés, la chorba,
combien de temps
les briques, c'est pas 3 heures de digestion. C'est minimum 5 heures.
D'accord, 5 heures. Donc ça, oui, bon, d'accord.
C'est juste c'est pour ça que c'est mieux de consommer ces fruits plutôt vers 3-4 heures du matin.
Oui, parce que la pastèque, c'est le fruit, c'est le fruit du mois de ramadan.
Voilà, mais c'est très très sucré. Et on ne se rend pas compte qu'on mange des grosses quantités et ça reste quand même du sucre. Les gens me disent, oui, c'est du bon sucre. Non, à mon sens, le raisonnement, ce n'est pas le bon sucre et le mauvais sucre. À mon sens, il y a un sucre industriel qu'il faut éviter parce que celui-ci vous emmène très vite vers le diabète et un sucre naturel mais qu'il faut manger avec modération parce que lui aussi au final il peut vous emmener vers le diabète.
C'est pas parce que c'est des fruits qu'il faut exagérer.
Exactement.
C'est pas parce que c'est naturel que c'est à volonté.
Oui, c'est quand même du sucre et il faut faire attention à sa consommation de sucre.
Bon, les combinaisons alimentaires, il y a quelques principes de base à comprendre.
Tout à fait.
Et à connaître. Voilà. Et
pas d'acide avec les amidons. Si vraiment on doit retenir quelque chose, c'est pas la brique avec le citron, c'est pas les pâtes et le fruit derrière. C'est vraiment le principe, c'est ça. C'est arrêtons de mettre du citron sur ses carottes, sur ses betteraves. Tout ça, faut changer sa façon de manger. C'est-à-dire, le citron n'est pas interdit, la betterave, les carottes ne le sont pas non plus, mais pas au sein du même repas.
Bon, voilà, c'est simple. Et la suite est dans votre livre, Kaina Ousedik, ça s'appelle « Le pouvoir extraordinaire des combinaisons alimentaires ». Chef Flammarion, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Vous réécouterez cette émission qui se réécoute très bien en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci et très belle journée
merci.
Santé sur
Beurre
FM. Merci,
à
bientôt, Kaina.
Merci, au revoir.
Retrouvez AVS en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.